VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Bion à ce micro, au sommaire de cette édition du jeudi 29 décembre 2022. En Côte d'Ivoire, la justice a condamné à la prison à perpétuité 11 accusés, dont 7 par contumace pour l'attentat djihadiste de Grand Bassam. Les autorités rwandaises ont accusé mercredi un avion de chasse de la RDC d'avoir violé son espace aérien. Le Soudan du Sud va envoyer 750 militaires en RDC pour combattre les rebelles dans l'est du pays. Le nouveau gouvernement israélien devrait être investi ce jeudi après près de 2 mois de dissension au sein de la coalition. Ici aux États-Unis, la tempête historique de neige a fait au moins 59 morts. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. En Côte d'Ivoire, la cour d'assises d'Abidjan a condamné hier à la prison à perpétuité 11 accusés, dont 7 par contumace pour l'attentat djihadiste de la station balnéaire de Grand Bassam, qui avait fait, vous vous en souvenez, 19 morts en mars 2016. Le point avec Rosine Monizero.
La cour a reconnu les accusés, tous maliens, coupables et les condamne à l'emprisonnement à vie, a déclaré le juge Charles Bini. Il y a une semaine, le procureur Richard Adou avait requis la prison à perpétuité. Hantao Ag Mohamed Sissé, Sidi Mohamed Kunta, Mohamed Sissé et Hassan Bari, les 4 présents à l'audience, étaient accusés d'avoir été des complices en faisant le repérage des lieux avant l'attaque. 14 autres accusés sont en fuite ou détenus au Mali. 7 ont été condamnés à perpétuité par contumace, 7 autres acquittés. Parmi les condamnés par contumace, figure Mimi Ould Baba Ould El Mokhtar, considéré comme l'un des cerveaux. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre Kunta Dalla, présenté comme le cerveau opérationnel de l'attaque. Le 13 mars 2016, 3 jeunes assaillants avaient remonté la plage de Grand Bassam et pris d'assaut plusieurs restaurants, tirant à la Kalachnikov sur des clients avant d'être abattus par les forces de sécurité ivoiriennes. Revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique, cette attaque djihadiste, la première survenue en Côte d'Ivoire, avait fait 19 morts.
Les autorités rwandaises ont accusé mercredi un avion de chasse de la République démocratique du Congo d'avoir violé son espace aérien, dernier épisode en date des vives tensions entre Kigali et Kinshasa après une offensive rebelle dans l'est de la RDC. Début novembre, le gouvernement rwandais avait déjà affirmé qu'un avion de chasse congolais avait violé son espace aérien. Le Soudan du Sud va envoyer 750 militaires dans l'est de la République démocratique du Congo, cela dans le cadre d'une force régionale, a annoncé hier un porte-parole de l'armée sud-soudanaise. Les détails avec Lionel Gaïma.
Ils partiront pour la République démocratique du Congo dès que possible, a déclaré le général de division Loul Rouai Kouang lors d'une cérémonie à Djouba, la capitale, précisant que ces hommes s'entraînent depuis plus de 6 mois pour cette mission. Le président Salva Kiir leur a demandé de maintenir l'ordre, les exhortant à protéger les civils et leurs biens. La cérémonie a été organisée quelques 4 mois après que des milliers d'anciens rebelles de Salva Kiir et de son rival Riek Machar ont été intégrés dans l'armée du Soudan du Sud. Une étape clé dans le cadre de l'accord de paix pour mettre fin à la guerre civile qui a fait près de 400 000 morts. Ces soldats font partie de la force régionale qui doit aider à pacifier l'est de la RDC qui accueille de nombreux groupes armés dont le M23, une rébellion Tutsi. Les FDLR, des rebelles Hutus d'origine rwandaise, opèrent aussi dans la région. Des rebelles burundais, Red Tabara, sont signalés dans le sud Kivu. L'armée ougandaise est déjà présente depuis 1 an pour aider à combattre les rebelles ADF d'origine ougandaise. Et plus au nord, en Ituri, les milices Codeco et Zaïre rivalisent dans un conflit sanglant entre Hema et Lendu.
De longues embrassades et des larmes de joie ont accompagné ce mercredi le premier vol commercial depuis 18 mois de la compagnie Ethiopian Airlines entre Addis Abeba et la capitale de la région troublée du Tigré, coupée du monde depuis juin 2021. Cette première liaison intervient près de 2 mois après que le gouvernement éthiopien et les rebelles tigrés ont signé le 2 novembre un accord mettant fin à la guerre qui a ravagé durant 2 ans cette région du nord de l'Éthiopie. Elle constitue un signe supplémentaire de la normalisation des relations entre les autorités fédérales et l'ancienne zone rebelle. Le président tunisien Kais Saied a minimisé mercredi l'abstention massive aux récentes élections législatives et s'en est violemment pris à ses critiques qui dénoncent un recul des libertés dans le pays depuis qu'il accapare les pouvoirs. Un taux de participation de 9% ou de 12% est préférable à celui de 99% qui était annoncé lors des précédentes élections saluées par les capitales étrangères, tout en sachant qu'elles étaient truquées, a déclaré M. Saied lors d'une réunion au palais de Carthage avec la chef du gouvernement, Najla Bouden, plusieurs ministres, dont celui de la Défense et des responsables sécuritaires.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le premier ministre israélien désigné, Benjamin Netanyahou, a présenté hier mercredi les grandes lignes du programme de son gouvernement qui doit prêter serment aujourd'hui. Il a mis l'accent sur l'expansion de la colonisation en Cisjordanie. Abdourahman Dia nous en dit plus.
Le peuple juif a un droit exclusif et inaliénable sur toutes les parties de la terre d'Israël. Le gouvernement va encourager et développer le peuplement dans toutes les parties de la terre d'Israël, affirme dans un communiqué le Likoud. Le parti de Benjamin Netanyahou a remporté les législatives du 1er novembre avec ses alliés ultra-orthodoxes et d'extrême droite. Le communiqué fait également référence aux demandes de ses alliés d'extrême droite qui veulent donner aux forces de sécurité une plus grande marge de manœuvre dans l'utilisation de la force en Cisjordanie occupée. Le gouvernement va s'efforcer de renforcer les forces de sécurité et de soutenir les combattants et les policiers afin de combattre et de vaincre le terrorisme, indique le document. M. Netanyahou a d'ailleurs annoncé la nomination d'un de ses proches, Yoav Gallant, au poste de ministre de la Défense. Cet ancien général de 64 ans a déjà occupé plusieurs postes ministériels. Enfin, le Likoud évoque les questions religieuses, affirmant que le statu quo sur les questions de religion et l'État sera maintenu comme il l'est depuis des décennies en Israël, y compris en ce qui concerne les lieux saints.
Ici aux États-Unis, la justice de l'État de New York a ouvert mercredi une enquête préliminaire sur les inventions stupéfiantes d'un parlementaire républicain fraîchement élu au Congrès américain qui a reconnu avoir grossièrement menti sur son CV et qui est poussé donc à la démission. George Santos avait confessé lundi avoir embelli son CV. Une magistrate républicaine, Anne Donnelly, s'est engagée à poursuivre le nouvel élu, affirmant que personne n'est au-dessus de la loi. Les habitants de Jackson, capitale de l'État du Mississippi, sont de nouveau privés d'eau courante. Plusieurs canalisations ont explosé sous l'effet du froid. Les précisions avec Mohamed Oumfa.
Les fuites, dont certaines n'ont pas été localisées, ont fait chuter la pression dans le réseau, paralysant la distribution d'eau dans une large partie de cette ville de 150 000 habitants, dont 80% d'Africains américains. Les autorités ont appelé à bouillir l'eau quand elle arrive chez les plus chanceux et déclaré un état d'urgence local. Le maire Chokwe Antar Lumumba a reconnu mardi faire face à un scénario du pire, tout en admettant la lassitude de ses administrés face à la multiplication des crises. Cette ville, parmi les plus pauvres des États-Unis, a déjà été privée d'eau pendant près d'un mois après une vague de froid en 2021. Des problèmes similaires ont été relevés dans d'autres régions dans le sud des États-Unis où les infrastructures n'ont pas été conçues pour faire face à des températures extrêmes comme la vague de froid dont le pays se remet à peine. La situation revient lentement à la normale à Shreveport, en Louisiane et en Florence, en Caroline du Sud, mais les habitants d'Asheville, en Caroline du Nord, sont toujours privés d'eau potable.
Les États-Unis sortent lentement donc de la tempête historique qui a fait au moins 59 morts, mais son impact a continué de se faire sentir dans la région de Buffalo, dans les aéroports, dans des centaines de milliers de passagers ayant vu leur vol annulé. Le comté d'Erie dans l'État de New York où se trouve la ville de Buffalo, près de la frontière avec le Canada, rassemble à lui seul 37 des au moins 59 décès liés à la tempête dans le pays selon un nouveau bilan mercredi. Les États-Unis vont exiger un test COVID négatif à partir du 5 janvier pour tous les voyageurs venant en avion de Chine en raison de l'explosion du nombre de cas dans ce pays et du manque d'informations communiquées par Pékin, ont annoncé mercredi les autorités sanitaires américaines. Et puis, le pape François a annoncé mercredi que son prédécesseur Benoît XVI, âgé de 95 ans, était gravement malade et qu'il priait pour celui dont la renonciation en 2013, pour raison de santé, avait pris le monde entier par surprise. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Michel Joseph.
L'Égypte a lancé un nouvel appel d'offres internationales pour les droits d'exploitation pétrolière et gazière dans le delta du Nil et la mer Méditerranée, rapporte l'agence de presse officielle. L'appel d'offres a été fixé pour 12 blocs, répartis également entre onshore et offshore, et la date limite pour les offres dans le cadre de l'appel d'offres a été fixée au 30 avril 2023, a indiqué l'annonce de l'appel d'offres. Le Kenya veut lever 900 millions de dollars de financements commerciaux externes prévus pour son exercice budgétaire, se terminant en juin, auprès de banques internationales, a annoncé le ministère des Finances dans un mémorandum au Fonds monétaire international. En raison des perturbations prolongées des marchés financiers internationaux, le Kenya fait appel aux banques internationales pour combler une partie du déficit budgétaire, a déclaré le ministère dans la note consultée par Reuters jeudi. Les exportations ougandaises de café ont diminué de 15% en novembre par rapport à la même période il y a un an, a indiqué l'autorité de développement du café de l'Ouganda. La baisse est due à une sécheresse dans la plupart des régions pour la deuxième année consécutive, entraînant une incidence accrue de ravageurs et de maladies attaquant les plantes. Kampala est le deuxième exportateur de café d'Afrique et les revenus de la récolte constituent une source majeure de devises étrangères.
Place maintenant au sport avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour à tous. Bonjour Jean-Roger.
La CAF a publié hier la liste des arbitres retenus pour la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN.
Oui, une liste dévoilée sur le site de la CAF à un peu plus de 2 semaines du coup d'envoi du tournoi. La liste comprend 19 arbitres, 21 arbitres assistants et 12 arbitres vidéo représentant 32 des associations membres de la CAF. Et puis, il y aura un trio de femmes arbitres pour cette nouvelle édition. Il s'agit de l'arbitre central Vicentia Amedon du Togo et des arbitres assistantes Karine Atezambongo Fomo du Cameroun et Diane Chikotesha de la Zambie, initialement prévue en 2022. Le CHAN aura lieu du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie, dans les villes d'Alger, de Constantine, d'Oran et d'Annaba.
Première Ligue en Angleterre, Manchester City garde le contact avec le leader Arsenal.
Oui, Manchester City a remporté une victoire importante sur le terrain de Leeds 3-1, qui lui permet donc de reprendre la deuxième place à Newcastle et de revenir à 5 points du leader Arsenal. C'était donc hier soir lors du dernier match de la 17e journée du championnat d'Angleterre. Sans être bousculés, les Citizens ont eu beaucoup de mal à se défaire du pressing efficace de Leeds en première période.
Basketball, NBA, Devin Booker des Suns, absent pour au moins 4 semaines.
Oui, en basketball, Devin Booker, l'arrière star des Phoenix Suns, sera absent encore au moins 4 semaines des parquets NBA. C'est ce qu'a annoncé hier sa franchise. Des examens complémentaires ont confirmé que Devin Booker a subi une entorse à l'aine gauche. Son cas sera réévalué dans 4 semaines, a tweeté la franchise de Phoenix. Après une performance remarquable le 17 décembre face aux Pelicans où il a marqué 58 points, Devin Booker avait manqué 3 matchs avant de faire son retour dimanche pour le choc face aux Denver Nuggets où il n'a finalement joué que 4 minutes avant de quitter les siens.
Basket toujours, la légende des Mavericks, Dirk Nowitzki, a désormais sa statue à Dallas.
Oui, une statue en bronze représentant la légende des Mavericks, Dirk Nowitzki, trône depuis ce week-end à l'entrée de l'American Airlines Center de Dallas, à la gloire de la star allemande de la franchise texane, mise à l'écart avant le match de NBA face aux Lakers, 124-115 ce dimanche. L'œuvre en bronze blanc, mesurant plus de 7 mètres, le représente en train de réaliser son geste favori, les 7 back, pas en arrière, sur un pied au moment d'armer son tir, qui a fait de lui un joueur souvent impossible à défendre.
Page de sport VO Afrique, signé Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le ministre de la Défense de la RDC, Gilbert Kabanda, a évoqué la possibilité d'instaurer un service militaire obligatoire ou contractuel de 5-10 ans. Il s'exprimait à l'occasion de la présentation officielle du document de politique de défense de la République démocratique du Congo. Mais pour l'analyste sécuritaire Jean-Jacques Wando, l'armée congolaise n'a pas un problème d'effectif, mais plutôt d'efficacité. Abdou Ramandia l'a joint à Bruxelles.
Cette note, pour moi, reste plus dans le registre d'intention parce que sa mise en œuvre risque de poser problème. Poser problème, pourquoi ? Parce que si vous voyez déjà l'étendue du territoire congolais, il faut un mécanisme assez pointueux pour pouvoir recenser ces jeunes et trouver le lieu où ces jeunes devraient passer par le service militaire. Nous connaissons aujourd'hui la situation sécuritaire du pays, la situation militaire, les conditions dans lesquelles les forces armées congolaises évoluent. Je reste assez dubitatif quant à la faisabilité effective de cette décision, d'autant plus qu'il y a beaucoup de contraintes qui risquent de peser ou d'émerger dans la mise en œuvre de cette décision, parce que cela demande d'abord une étude de faisabilité et même un projet pilote avant d'implémenter ce genre de projet qui risque d'avoir aussi d'autres effets néfastes.
D'autant plus que le président congolais avait également demandé aux jeunes de se porter volontaires pour aller aider un peu l'armée pour faire face un peu à la rébellion des M23.
Oui, c'est-à-dire que le président avait fait appel à la jeunesse pour une mobilisation pour faire face au M23. Mais je pense qu'on essaye parfois de déplacer le problème. Quand vous considérez, par exemple, en termes d'effectifs, les effectifs des forces armées congolaises qui sont signalés par les canaux officiels sont largement supérieurs aux effectifs, par exemple, respectifs de chaque État de l'Est.
C'est pas un problème d'effectif, alors, pour vous?
Ce n'est pas un problème d'effectif, mais c'est un problème qualitatif. Mais il faut reconnaître aussi que au niveau de FRDC, donc l'armée congolaise, on signale parfois des effectifs qui sont erronés, des effectifs fictifs, pour pouvoir bénéficier de l'argent qui serait payé pour ces personnes qui sont, ou ces militaires qui sont fictifs. Le problème est plutôt du côté qualitatif de l'armée, du côté de la réforme de l'armée, parce qu'entre-temps, la mobilisation à laquelle vous avez fait allusion, c'est 10 500, si j'ai bonne mémoire, de jeunes qui sont rassemblés actuellement à la base de Kitona, au sud du pays, qui sont en train d'être formés. Et si on fait aujourd'hui appel à des jeunes pour une formation de service militaire, mais il faut assurer la suite. La suite est que le pays est dans une conjoncture économique assez difficile et que le pouvoir d'achat des militaires est très faible. Ces jeunes qui seraient formés et après qui rentreraient en civil et qui n'auraient pas de travail ou d'emploi risquent d'être des futurs criminels.
C'était Jean-Jacques Wando, expert sur les questions de sécurité. Les Ivoiriens devraient s'appeler Ivoirois et les Ivoiriennes Ivoiriennes. C'est le projet de loi déposé à l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire par le député national Olivier Vamidjé-Bidjé. Dans une interview accordée à Marius Mounga lors de son passage ici à Washington DC, le maire de Zénoula est aussi revenu sur le processus de réconciliation en cours dans son pays.
La situation actuelle d'habitants de la Côte d'Ivoire, ivoirien, a une connotation péjorative. On est souvent raillé, on nous dit, nous les Ivoiriens, nous ne voyons rien. La seconde raison, c'est que le nom agit sur le comportement des individus et même des choses. Donc pour ces deux raisons combinées, il est nécessaire de changer le nom des habitants de la Côte d'Ivoire, changer de gentil.
Quand j'ai dit vous êtes ivoirien, est-ce que vous vous sentez insulté?
Et vous voyez, je peux vous citer une multitude d'exemples. Par exemple, j'ai une amie qui vivait à Strasbourg dans les années 90. Une fois, elle a voulu aider, elle a aidé un aveugle à traverser la rue. Et après, l'aveugle étant content, elle lui a demandé, mais vous venez d'où? Elle a dit, nous sommes des Ivoiriennes. Le monsieur s'est emporté parce qu'il pensait que c'était une mauvaise blague. Comme lui, il était aveugle, il ne pouvait pas comprendre que des personnes puissent se moquer de son handicap. Donc, il a commencé à s'énerver. Et bon, il y a eu plein de films et il y a plein de blagues qui disent ouais, « Vous, les Ivoiriens, vous ne voyez rien. » On voit plein de communications.
Ça relève, si on voit selon ce que vous expliquez, de la blague, c'est de la comédie. C'est pas sérieux quand on dit
oui,
ça.
Oui, non, mais là, je vous parle comment on est raillé. Mmh. Notre nom actuel a une connotation péjorative. Mmh. La seconde raison, parce que les noms agissent sur l'esprit, le comportement des individus. C'est un impact psychologique. Les mots ont une charge émotionnelle. Je peux vous citer une multitude d'exemples. À l'échelle, par exemple, nationale, dans les années 80, quand Thomas Sankara est arrivé au pouvoir, il a fait une révolution culturelle. Il a décidé de changer le nom de son pays et surtout des habitants de son pays. Les Voltaïques, qui s'appelaient avant les Voltaïques, ont été rebaptisés les Burkinabés, habitants du Burkina Faso. Il a changé le nom du pays, le Burkina Faso. Et je peux vous dire, pour tous ceux qui ont connu ces deux périodes, le fait d'avoir changé de nom, ça a eu un impact positif sur le comportement des Burkinabés. Ce sont des études sérieuses qui ont été menées, qui ont montré la corrélation entre le nom et le devenir des individus et même des choses.
Et vous venez avec un nom, vous proposez dans votre proposition de loi que les actuels Ivoiriens et Ivoiriennes, donc que les Ivoiriens s'appellent désormais les Ivoirois et que les femmes s'appellent les Ivoiriennes.
J'aurais pu juste changer le suffixe, le « ien », le remplacer par le « oi » et on aurait annulé l'effet péjoratif. Dans ce cas de figure, on se serait appelé « Ivoirois », « Ivoiroise ». Mais vu qu'on avait un effet négatif, péjoratif, je me suis dit « mais pourquoi pas ne pas utiliser l'effet contraire mais positif ?» nous donner un nom qui va nous donner confiance en nous, qui va nous donner un certain défi et qui nous oblige à nous comporter. C'est la raison pour laquelle j'ai créé le néologisme Ivoirois, Ivoirienne. Ce qui veut dire en substance que nous sommes les rois de l'ivoire, les reines de l'ivoire. Et quand je le dis, c'est pas pour flatter l'ego de mes compatriotes, mais c'est plutôt pour nous ramener à certaines valeurs.
Pensez-vous que votre proposition a les chances de passer?
Mais absolument. Quand je fais un sondage qualitatif, lorsque je fais une publication et j'explique un peu le bien fondé de cette réforme, j'attire l'assentiment de près de 90%. Je n'ai pas fait de sondage qualitatif, mais quantitatif. Mais je me rends compte que, en tout cas, à tout ce dont je parle, ils adhèrent à ce projet.
Olivier Vami Diabidje, député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM. VOA Afrique, 24h sur 24.
3500 agents du gouvernement somalien sur quelques 5000 sont des fonctionnaires fantômes, a révélé le président somalien Hassan Cheikh Mohamud. Reportage de Mogadiscio, d'Ahmed Mohamed, le récit est de Timothée Donangmaï.
Le constat du président Mohamud a suscité une vive colère chez les Somaliens et des appels à l'action. Mahad Mohamud vend des fruits à Mogadiscio.
Le gouvernement dépend beaucoup des donateurs pour financer son budget. Et pourtant, il paie des gens qui ne viennent pas au travail. Les fonctionnaires fantômes doivent être contraints de rembourser leur salaire et être jugés pour corruption et abus de confiance publique.
Le budget 2023 de la Somalie se chiffre à 930 millions de dollars, les deux tiers devant provenir des donateurs. Deka Elmi, une jeune femme titulaire d'un diplôme universitaire, exhorte les dirigeants somaliens à sévir contre les fonctionnaires fantômes.
Le gouvernement paie plus de 3500 personnes qui sont absentes de leur lieu de travail, alors que des étudiants diplômés sont au chômage. Le président et le premier ministre doivent agir de toute urgence à ce sujet.
Le président Mohamud s'est exprimé sur le sujet alors qu'il s'adressait à des responsables gouvernementaux durant la prière du vendredi à la mosquée de la présidence.
Le système de contrôle biométrique de gestion du temps et des présences du gouvernement indique le nombre d'employés présents. La machine ne ment pas, mais indique qui a posé son pouce dessus. Les fonctionnaires sont plus de 5000, mais seulement 1500 sont présents.
Confirmant le problème samedi, le premier ministre somalien Hamza Abdi Barré a ordonné au ministre de veiller à ce que les agents publics respectent les horaires de travail. Toutefois, Mohamed Matan, enseignant de sciences politiques à l'Université de Somalie, doute qu'il y ait autant d'absences volontaires que cela dans la fonction publique. Les militants d'Al-Shabaab qui prennent pour cible les fonctionnaires pourraient aussi y être pour quelque chose, estime-t-il.
La crainte d'Al-Shabaab a forcé les gens à ne faire confiance qu'à quelques personnes et se tenir à l'écart des autres. Toutefois, les fonctionnaires ne pouvant pas être licenciés, cela les amène à ne pas prendre leur travail au sérieux. Même lorsqu'ils vont au bureau, ils ne travaillent pas.
Ces deux dernières décennies, Transparency International a classé la Somalie parmi les pays les plus corrompus au monde. Mahad Wasuge est directeur exécutif de Somali Public Agenda, un centre de recherche sur la gouvernance. Il suggère le limogeage des fonctionnaires fantômes et une profonde réforme de la fonction publique.
Cela peut se faire sur un plan général de la réforme de la fonction publique sur la base d'un recrutement ouvert et transparent. Même les directeurs généraux doivent être recrutés de manière transparente parce qu'ils ne sont pas des politiciens, mais sont là pour leur expertise administrative et technique.
La Somalie espère obtenir un allègement de sa dette avec le concours du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale d'ici la fin 2023. Cela requiert une adhésion stricte aux procédures budgétaires, y compris une gestion prudente des ressources publiques et une rationalisation de la fonction publique somalienne.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Donald Trump est candidat à la présidence des États-Unis pour la troisième fois dans l'espoir de devenir le deuxième président de l'histoire américaine à remporter des mandats non consécutifs. Les sondages d'opinion montrent que la majorité des électeurs du Parti républicain ne pensent pas qu'il devrait être leur candidat. Pour savoir comment Donald Trump se comporte dans l'un de ses bastions historiques, le correspondant national en chef de VOA, Steve Herman, s'est rendu à Mount Storm, en Virginie occidentale. Le récit est signé Arzuma Compaoré.
Le comté de Grant, en Virginie occidentale, est un endroit idéal pour évaluer le soutien post-présidentiel de Donald Trump. En 2016, comme en 2020, Trump a capté environ 88% des voix ici, au cœur des Appalaches. Cette marge n'a pas surpris Camille Howard, directrice de la rédaction du Grant County Press, le seul média du comté.
Les gens sont massivement républicains ici. Quel que soit le candidat républicain sur le ticket, il va probablement gagner.
Moins de 700 des 7000 électeurs du comté sont inscrits comme démocrates. Parmi eux, Frank Miller, psychologue scolaire à la retraite, qui a du mal à comprendre pourquoi tant de ses voisins sont de fervents partisans de Trump.
C'est un culte. Je suis psychologue. Je comprends comment fonctionnent ces sectes où la réalité est suspendue et ils se concentrent tous sur ce que le chef leur dit.
Maintenant, si vous voulez vraiment les rendre fous, dites 12 années de plus.
Au cours de ces 4 années de présidence, Trump a cherché à sauver l'industrie du charbon de la Virginie occidentale, a tourné en dérision l'énergie solaire, également en hausse dans le comté du Grant, en la qualifiant de pas assez forte, et s'est insurgé à plusieurs reprises contre les éoliennes dont il y a plus de 100 au-dessus de la ville de Mount Storm.
Ils disent que le bruit provoque le cancer. C'est vous qui me le dites, hein, d'accord? Les choses font et bien sûr, c'est comme un cimetière pour oiseaux.
La plupart des personnes que je connais qui ont voté pour lui auparavant voteraient à nouveau pour lui.
Jody Hours est une ancienne technicienne en salle d'opération et la belle-sœur de l'assesseur du comté, Jerry Hours.
Ce que vous verrez, c'est qu'il conservera la plupart de ses soutiens et les renforcera, je pense. Je pense vraiment, peu importe qui est dans la course.
J'annonce ce soir ma candidature à la présidentielle des États-Unis.
Trump a remporté 2 primaires présidentielles en Virginie occidentale, mais il y aura plus de challengers républicains pour la nomination en 2024 que ce qu'il a affronté en tant que candidat sortant et unique 4 ans plus tôt.
Le monde. Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro, à la mise en onde Lionel Gaïma. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes.